Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 23 mars, il est 7h.
La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Elle a une ce matin, la prochaine rentrée des classes peut-être. Le 4 mai, c'est le scénario envisagé par le ministre de l'Éducation. Mais attention aux faux espoirs. Jean-Michel Blanquer assure que tout dépendra de la suite de la pandémie de coronavirus. Et cette question qui perdure, où sont les masques? Nous vous racontons dans ce journal comment la France a laissé fondre son stock en se disant qu'en cas de problème, on pourrait compter sur la Chine. Et puis plus d'une centaine de milliers de nos compatriotes sont toujours bloqués à l'étranger. Avec les mesures de confinement prises dans le monde entier, c'est très compliqué de rentrer. Vous entendrez une vacancière qui a mis 3 jours à revenir du Népal.
Radio Classique.
C'est une date que beaucoup de parents attendent et ont peut-être déjà inscrit à leur calendrier. Augustin, les enfants pourraient retourner à l'école le 4 mai prochain.
Hypothèse avancée par Jean-Michel Blanquer dans Le Parisien de ce matin, le ministre de l'Éducation qui dit aussi qu'il n'y aura pas de report du bac ni de raccourcissement des vacances d'été. Attention, ce scénario privilégié reste un scénario, mais même au conditionnel, il est trop tôt pour donner une date, estime Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, la Fédération des parents d'élèves.
D'annoncer des dates comme ça, ça risque d'avoir un effet contraire, c'est-à-dire de donner une date butoir, et si jamais elle n'est pas atteinte, de faire plutôt une dépression généralisée plutôt que de symboliser une date espoir pour tout le monde. Est-ce qu'on est en train de préparer l'opinion? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on est en train d'aider les parents qui s'organisent avec les enseignants pour faire en sorte que tout se passe mieux? Certainement pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en Chine, ils sont restés confinés pendant plus de 3 mois. Nous attendons une parole forte du chef de l'État qui dise oui, le 4 mai est la date dans laquelle la France reprendrait sa vie normale. Tant mieux si c'est le cas. Si c'est pas le cas, ça risque d'être compliqué, oui.
Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE avec Éric Cucuoche.
L'épidémie de coronavirus a désormais fait au moins 674 morts en France. Et alors qu'elle continue de s'étendre, une question revient. Pourquoi la France n'a-t-elle pas assez de masques?
Le ministre de la Santé en a commandé 250 millions. Il en faut à peu près 24 millions par semaine, selon Olivier Véran. Il reconnaît que les stocks actuels sont insuffisants, de quoi tenir 3 semaines. La faute à ses prédécesseurs. Car Éric Cucuoche, il a fallu faire des économies ces dernières années.
Avant 2009, les entrepôts sont pleins. Mais après l'épidémie de H1N1, l'opinion crie au scandale. La ministre de la Santé de l'époque, Roselyne Bachelot, aurait commandé trop de vaccins, trop de masques, trop d'argent dépensé pour une maladie qui a relativement épargné le pays. Conseillers et politiques en responsabilité se posent donc la question, est-ce utile d'avoir autant de stocks? Leur réponse sera non. Car gérer ces réserves coûte entre 50 et 100 millions d'euros par an à l'État. Alors, en 2013, il est décidé de ne plus stocker ces masques au niveau national. Hôpitaux et administrations sont appelés à faire leurs propres réserves selon leurs besoins. En cas d'épidémie, il suffira d'en commander aux Chinois. Dans cette équation, Wuhan ne devait pas être l'épicentre de la maladie. Une gestion de flux donc qui s'est grippée avec une Chine à l'arrêt pendant 3 mois. Désormais, la réquisition des usines pour produire des masques et la commande annoncée par le gouvernement de 250 millions d'unités doivent permettre de colmater quelque peu la faille.
Éric Cucuoche a noté que dans Le Parisien ce matin, Marisol Touraine, l'ancienne ministre de la Santé sous François Hollande, estime qu'on alimente des polémiques inutiles. Ces masques, Augustin, eh bien, ils sont nécessaires pour protéger en priorité le personnel soignant.
Un premier médecin est mort de cette pandémie, on l'a appris ce week-end. Il s'agissait d'un urgentiste de l'Oise sorti de sa retraite pour aider ses collègues. Et il faut que tous les soignants soient protégés, personnel hospitalier et médecin de ville. C'est ce que réclame Jacques Battistoni, président du syndicat de généralistes MG France.
Plus vous êtes en contact avec le virus, plus régulièrement vous avez même ce qu'on appelle une charge virale, c'est-à-dire un nombre de virus contaminants important, plus vous risquez de développer l'infection. Donc le risque pour les médecins généralistes qui voient en moyenne 20 à 30 patients par jour, c'est effectivement de rencontrer pas mal de patients potentiellement contaminants et à la longue de tomber malade eux-mêmes. Protéger les soignants, c'est aussi protéger notre capacité à soigner la population. Si tous les soignants, tous les médecins tombent malades, qui vous soignera demain?
Propos recueillis par Lucille Bréau.
Et pour être mieux protégé, plusieurs associations de médecins ont demandé au Conseil d'État le confinement total de la population. Le Conseil d'État a refusé.
Le gouvernement doit en revanche revoir certaines dérogations de sortie, comme celle pour la pratique sportive, jugée trop large. Le maintien des marchés alimentaires doit aussi être réévalué. Le Conseil scientifique se réunit aujourd'hui sur cette question de la durée du confinement. Il sera probablement prolongé.
Des malades évacués de Corse, par ailleurs, sont arrivés ce matin à Marseille.
12 patients transportés dans un porte-hélicoptère de la Marine nationale pour être soignés dans la cité phocéenne et désengorger l'hôpital d'Ajaccio, arrivé à quasi-saturation. Marseille, où les infirmiers libéraux se tiennent prêts à venir en renfort, comme cet infirmier interrogé par Stéphane Burgat.
Il a quitté l'hôpital pour exercer à domicile. Joël Ignace s'apprête à faire le chemin inverse et il n'est pas le seul.
Plusieurs de mes collègues et moi-même, on est prêts à retourner à l'hôpital dès que le besoin s'en fera sentir. On a pris contact avec les différents hôpitaux de la ville et ils en ont le numéro et ils nous appelleront quand la situation va commencer à se tendre. Il y a aussi l'ARS qui nous a appelés pour savoir si on pouvait prendre en charge à domicile les patients qui sont en Covid et qui nécessiteront pas une hospitalisation ou alors quand l'hôpital sera saturé. Là aussi, on a répondu par l'affirmative.
Son associé est prêt à faire de même. Il sera possible pour eux deux de gérer à la fois les gardes en réanimation et leur patientèle de ville, car leur activité à domicile a fortement diminué ces derniers jours.
Des patients qui décommandent des soins, il y a des patients que de nous-mêmes on a choisi de ne plus aller voir pour ne pas les mettre en danger. On les suit par téléphone, on a réduit les contacts au maximum. Après, il y a des gens chez qui on est obligé d'aller. Ben là, on prend les précautions qu'on peut.
Et l'appel au renfort des hôpitaux publics et privés se multiplie ici, notamment via les réseaux sociaux, avec la crainte d'un afflux sensible du nombre de malades ces tout prochains jours.
Stéphane Burgat, le correspondant de Radio Classique à Marseille.
Et puis 130 000 Français sont toujours coincés à l'étranger.
Le ministère des Affaires étrangères promet qu'ils seront rapatriés dans les prochains jours. Un peu d'espoir pour ces voyageurs pour qui les vacances ont tourné au casse-tête. Exemple avec Catherine, elle est revenue du Népal après 72 heures de voyage et des escales en cascade. Elle a raconté et son épopée à Marc Bourreau.
Quarantaine, mesures barrières, confinement, ces mots semblaient lointains pour Catherine et son mari à 7000 km de la France.
On regardait les infos, mais on était un peu loin de ça. On savait qu'il se passait des choses importantes. On s'est toujours dit, c'est surprenant que le Népal ne soit pas touché.
Mais en milieu de semaine, la France se confine, le Népal ferme ses frontières dans quelques jours, il faut partir.
Notre accompagnateur népalais nous a appelé pour nous dire, vous avez un vol demain matin. En une demi-heure, on a bouclé les valises, monté dans le bus. Là, on a commencé à avoir un peu une boule au ventre. On a essayé de joindre l'ambassade de France pour savoir comment on allait pouvoir se dépatouiller. On n'a jamais pu les avoir, quoi.
À l'aéroport de Katmandou, les vols sont annulés les uns après les autres. Débute alors une course contre la montre pour trouver des billets. Ce sera finalement un périple de 3 jours. Katmandou, Doha, Zurich et Paris.
À Roissy, on n'a eu aucun contrôle. On est sorti de l'avion, sorti de l'aéroport. On est sorti à un temps record de Paris. Et on n'a pas eu de contrôle routier, rien du tout. Ce qui est frappant, c'est ce silence partout. Tu vois pas de voiture, tu vois personne dans les rues. Ça, c'est surprenant, oui.
Un périple éprouvant, mais Catherine s'estime chanceuse. À Katmandou, beaucoup de touristes n'avaient pas trouvé de billets à temps.
Marc Bourreau.
Enfin, c'était peut-être le dernier bastion du sport à résister. Possibilité désormais d'un report des Jeux Olympiques de Tokyo. Il est évoqué par le Premier ministre japonais.
Le CIO a lui annoncé qu'il se donnait 4 semaines pour décider d'un scénario. Le report fait partie de ces scénarios. En revanche, pas d'annulation. Des déclarations, alors que le comité olympique australien estime que les JO ne peuvent pas se tenir en juillet et que le Canada a pris la décision de n'envoyer aucun athlète au Japon cet été.
Merci Augustin Lefebvre. Termine le journal trop tôt. Et si la maladie se propage en Europe, le nombre de cas, signalons-le quand même, c'est une bonne nouvelle, baisse en Chine.
On va effectivement terminer avec cette bonne nouvelle. Le pays ne compte aucun cas d'origine locale pour le 5e jour consécutif, mais la Chine recense tout de même 39 cas importés par des voyageurs. Alors pour éviter que l'épidémie ne soit relancée, toute personne qui arrive dans le pays est placée en quarantaine et les habitudes prises au cœur de la crise persiste. Eugénie est une Française qui vit à Shanghai.
Il n'y a pas une personne dans la rue qui n'a pas un masque. Dans les bureaux, on porte des masques au quotidien. On ne s'autorise toujours pas à faire des réunions collectives avec beaucoup de personnes impliquées. On les fait par vidéo. On doit justifier de désinfection régulière, de contrôle de la température à l'entrée. Les taxis doivent rouler les fenêtres ouvertes. Donc, il y a quand même encore beaucoup de précautions qui sont mises, mais qui rassurent et qui, du coup, permettent d'envisager de reprendre une vie normale, une vie sociale. Les clubs de sport réouvrent, les terrains de tennis, les terrains de football. Les gens sont de nouveau dehors en balade et reprennent le chemin des centres commerciaux et petit à petit des restaurants.
Voilà Eugénie, une Française qui vit en Chine, interrogée par Émilie Vallès.
Merci Augustin Lefebvre. Il est 7h08 sur Radio Classique.